Ben on va se lancer. Donc, vous avez remarqué qu'on a changé de sujet pour le mardi d'études publiques de ce début janvier, puisque avec la mort samedi 31 décembre du pape émérite Benoît XVI, on s'est dit que c'était intéressant de réfléchir sur cette figure marquante de la vie de l'Église au XXe siècle, donc le cardinal Joseph Ratzinger devenu pape Benoît XVI, les avancées qu'il a initiées en tant que théologien hors pair et spécialiste de Vatican II, avant et pendant son pontificat entre 2005 et 2013, mais aussi les débats qu'il a suscités, pardon. Nous avons la chance d'avoir deux intervenants principaux, Guillaume Goubert et François Hevet, et deux étudiants du Centre Sèvres que je vais présenter. Donc je vais commencer par Guillaume. Alors j'ai rédigé avec du vous, mais je vais dire à tu parce qu'on a travaillé quand même longtemps ensemble. Donc Guillaume, tu as 65 ans. Si Elisabeth Borne avait annoncé cet après-midi un âge de la retraite à 65 ans, tu n'aurais pas été concerné. D'autant que tu es à la retraite depuis un an, un retraité actif, puisque tu continues à écrire dans la Croix des critiques de livres et d'expositions, et tu tiens une chronique sur RCF le mardi matin, Les Histoires de l'art. Tu as fait des études à Sciences Po et un début de carrière de journaliste notamment spécialisé dans les médias. Et tu es entré en 1987 à La Croix parce que c'était un bon journal. Tes parents étaient abonnés, mais tu n'étais pas une grenouille de bénitier. Tu étais, comme tu dis, recommençant. Au moment de ton mariage avec Véronique, il y a 40 ans cette année, vous êtes interrogé pour savoir si vous alliez vous marier à l'église. Et si oui, pour des raisons de pression familiale ou parce que c'était important pour vous. Et vous avez tranché pour la dernière affirmation. Bon, résultat, alors que dans les autres journaux, tu trouvais, je cite, rigolo d'être le cateau de service, tu t'es trouvé petit joueur en arrivant à la Croix. C'était pas trop grave parce que tu étais chef du service économique, puis après tu as été chef du service monde. Mais en réalité, tu avais un rêve, être correspondant. Tu flashais particulièrement sur Jacques Nobécourt, correspondant du Monde à Rome, qui avait été correspondant du Monde à Rome, qui était originaire de Rouen comme toi. Ça tombait bien. Le seul correspondant salarié de la Croix était à Rome. Et ce qui t'intéressait, c'était le travail de journaliste, voir comment fonctionnait le Vatican, une machine de pouvoir avec des règles extrêmement précises, un peu un côté kremlinologue, enfin vaticaniste, on dirait. À Rome, tu es arrivé en 1987, en 97, pardon, tu as rencontré le meilleur, par exemple Timothy Ratcliffe, le maître des dominicains sur lesquels tu as fait un livre, et le pire. Tu reconnais cependant que beaucoup de choses t'ont échappé, notamment en ce qui concerne les abus sexuels. Tu as vécu les 4 dernières belles années de Jean-Paul II comme pape, avec notamment des voyages mémorables à Cuba, en Terre Sainte et en Ukraine, dont les gréco-catholiques, on disait je pense les Uniates à l'époque, sortaient des catacombes. Et tu as aussi vécu le jubilé de l'an 2000 pour lequel tu as énormément travaillé. De retour à Paris, tu as intégré la rédaction en chef, tu as vécu le conclave de 2005, tu vas en parler, la démission de Benoît. Et en 2015, tu as été nommé directeur de la Croix, poste que tu as occupé jusqu'en 2021. Tu as participé notamment à la seule interview en direct d'un pape avec François. Donc, vous avez débuté avec Sébastien, avec des questions qui étaient posées à l'avance, et fini dans une discussion hyper cool. Ça, je te cite, hein. Beaucoup de sous-ministres se prennent plus pour eux-mêmes que le pape actuel, dis-tu. Tu es fier d'avoir contribué à faire vivre ce que tu appelles un canard improbable, qui doit faire avec deux publics en attrition, les lecteurs de la presse quotidienne et le public catho. Pour autant, tu estimes qu'abandonner la référence chrétienne tuerait le journal. Dans ton expérience de journaliste média, tu avais tiré la conclusion qu'on ne se vend que sur sa différence. Et à tes yeux, l'avenir de la Croix, c'est donc être très catho et très pro. Et tu es heureux d'avoir tenu cette tension dans ta période de direction du journal, qui a été marquée notamment, enfin, beaucoup marquée par la révélation des abus sexuels, dans lequel tu es content d'avoir assuré la crédibilité du journal. François Hevet, tu as 68 ans, tu as étudié la physique par curiosité pour savoir ce qu'il y a derrière les choses. Ça t'a conduit à Normal Sup, cachant, et à passer l'agrégation de physique. Après un troisième cycle en physique des plasmas, tu es tombé dans la spiritualité ignatienne, ou peut-être même avant, notamment en enseignant chez les dames de Danielou, en participant à la communauté vie chrétienne et en fréquentant des jésuites. Résultat, tu es entré dans la compagnie de Jésus en 1983. Il y aura donc 40 ans cette année, comme le mariage de Guillaume et Véronique. Et tu as été ordonné prêtre en 1989. Au tout début des années 90, la compagnie s'interrogeait sur son retour en Russie, un pays qui te passionnait depuis l'enfance. En 1992, ni une ni deux, après quand même un discernement, on est chez les Jèzes, dans les formes, tu allais t'installer à Moscou avec deux autres jésuites, un supérieur polonais et un mexicain. Vous étiez les premiers représentants officiels des jésuites à Moscou depuis le XVIIIe siècle. Tout en vous dépêtrant des difficultés de la vie quotidienne, ce qui était encore l'Union soviétique, tu as fait des cours sur l'Église et l'œcuménisme. En 1995, tu es revenu à Paris, où tu as préparé une thèse de théologie sur le thème « Penser la création comme jeu », vaste programme, dirait l'autre. En quelques mots, pour toi, la création n'est pas le fruit d'un travail, c'est un acte gratuit. Si j'ai bien compris. Professeur au Centre Sèvres, tu as été doyen de la faculté de théologie et titulaire de la chaire Teilhard de Chardin. Et en 2012, tu as passé une année sabbatique à l'université de Georgetown à Washington sur la question de la science et de la religion. Et depuis janvier 2013, tu es presque devenu journaliste en étant rédacteur en chef de la revue Études, à laquelle tu collaborais depuis une dizaine d'années. Il te trouve intéressant de brasser différents sujets et rencontrer des gens intéressants. Voilà. Surtout, tu es heureux de pouvoir jouer un rôle significatif dans les réflexions et débats intellectuels en France. Étude est à tes yeux une présence originale d'Église dans la société. Ce que la croix est au quotidien, Étude l'est au mensuel, dis-tu. Donc une démarche professionnelle et engagée. Très catho, très pro. Effectivement, donc le thème qu'on a choisi pour ce débat, c'est Benoît XVI, le dernier pape du deuxième millénaire. Guillaume, est-ce que c'est la bonne question ?
C'est une bonne question, oui, effectivement. Je pense que Benoît XVI, certainement, appartient clairement au deuxième millénaire et pas au troisième. Alors, il ne faut pas être injuste avec lui. Hein. Je pense que, sincèrement, profondément, ce n'était pas un pape réactionnaire. Mais il était très attaché à ce qu'il appelait l'herméneutique de la continuité. Et effectivement, il a essayé de... d'être un homme de continuité avec, je pense, des références. Alors, je ne me prononcerai pas sur les questions théologiques parce que je me sens extrêmement peu compétent. François l'est beaucoup plus que moi. Mon expérience est plus une expérience, je dirais, d'observer l'Église. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire ecclésiologie, mais d'observer l'Église. Et en tout cas, ce que j'ai pu observer du cardinal Ratzinger, puis de Benoît XVI, c'était vraiment un souci de continuité extrêmement fort dans la vie et dans l'organisation de l'Église. Et puisqu'il y a le mot dernier dans l'intitulé, oui, une organisation dont on sent bien qu'elle est aujourd'hui à bout de souffle et qu'elle a besoin d'être profondément renouvelée. Et dans l'élan suscité par Jean-Paul II, parce qu'il y a eu un élan suscité par Jean-Paul II, il s'est attaché à prolonger cet élan, mais avec les difficultés qu'on constate aujourd'hui. Là où il est également un pape du second millénaire plus que du troisième millénaire, c'est qu'il est dans la continuité d'une histoire européenne de l'Église. C'est un homme profondément de l'Europe, européen, qui a évidemment, l'élection du cardinal Bergoglio, de ce point de vue-là, a marqué un tournant important dans la mesure où il a, c'était pour la première fois depuis très très longtemps, un cardinal non-européen qui était élu sur le siège de Pierre. Et voilà, et on a bien senti, pour avoir vécu le conclave de 2005, où je suis revenu à Rome pour suivre ce conclave comme envoyé spécial, que dans le mouvement qui s'est constitué pour son élection, il y avait chez certains cardinaux un souhait, et chez un nombre suffisant de cardinaux, un souhait profond de prolonger encore ce qu'était l'organisation de l'Église à l'Europe à l'époque, c'est-à-dire une Église très centrée sur l'Europe, une Église très centralisée au Vatican. Et je relisais des notes là aujourd'hui que j'avais prises à l'époque, et quelqu'un m'avait dit que les votes pour c'était le directeur de Radio Vatican de l'époque, Père Borgomeo, jésuite, qui m'avait dit que dans les votes pour le cardinal Ratzinger, il y avait à la fois des votes de conviction et des votes de confort. Et la coalition des deux a abouti effectivement à l'élection d'un homme qui était vraiment un symbole de continuité. Voilà, en ce sens, oui, il a bien été le dernier pape du deuxième millénaire.
Ce que tu dis, c'est qu'effectivement, en entrant au conclave, il était le favori.
Disons qu'en entrant au conclave, on savait qu'il y avait, enfin, dans la période qui a précédé le conclave, on a bien perçu les journalistes présents qu'il y avait il y avait un mouvement qui s'était organisé pour pousser, soutenir sa candidature. Donc on savait que de toute façon, il allait entamer le conclave avec un nombre de voix assez important. Mais là aussi, en relisant mes notes, je me suis rendu compte que ça avait quand même été un petit peu une surprise. En tout cas, ce qui avait certainement été une surprise, c'est que le conclave soit aussi bref, puisqu'il a duré en gros une après-midi, une matinée, quoi, à peu près, 24 heures. Et donc, alors qu'on s'attendait à ce que... en fait, on sortait d'un pontificat qui avait été très long, plus d'un quart de siècle, 78-2005, dont les dernières années avaient été très pénibles, car la santé du pape Jean-Paul II était extrêmement dégradée, et du coup, c'était vraiment la machine vaticane qui était en action, et nous étions... Moi d'abord, mais j'étais pas le seul à penser que après une aussi longue période où la vie de l'Église avait été dominée par l'administration vaticane, il y aurait de la part des cardinaux dits résidentiels, c'est-à-dire ceux qui sont pas au Vatican mais qui sont responsables de diocèse, le souhait d'une plus grande pastoralité du pape, et donc l'élection plutôt d'un homme extérieur à la curie. Mais bon, dès le début de la période pré-conclave, on a vu se constituer très clairement une coalition de cardinaux pour pousser la candidature de Benoît XVI. On pensait qu'il y aurait, mais je n'étais pas le seul, à penser qu'il y aurait quand même une minorité, entre guillemets, de blocage qui empêcherait une élection très rapide de Benoît XVI, au profit éventuellement d'une figure relativement centriste qui aurait pu être par exemple un cardinal résidentiel italien, c'est-à-dire un homme qui ne serait pas du Vatican mais qui serait quand même suffisamment proche du Vatican pour inspirer confiance à tout le monde. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. La quantité de voix rassemblée par Benoît XVI, je crois, était immédiatement très importante. Il y a quand même eu pas mal, selon ce qu'on a pu reconstituer après, parce que tout cela est secret. Il y a quand même eu un nombre important de votes qui se sont portés sur le cardinal Bergoglio, mais qui, la grande figure d'opposition, entre guillemets, à Benoît XVI, c'était le cardinal Martini, qui était électeur, mais qui avait des problèmes de santé, qui faisait, maladie de Parkinson, qui faisait que, c'est pas envisageable, il était déjà assez âgé, c'était difficilement envisageable qu'il soit élu, mais voilà, on se disait de cet affrontement, magnifique en un sens, entre des figures comme le cardinal Ratzinger et le cardinal Martini, allait peut-être émerger une figure centriste. Excusez-moi de parler dans ces termes très politiques, ça n'a pas été le cas.
Et lui-même, il aspirait à devenir pape, il l'a fait par sens du sacrifice, par...
Je dirais pas sacrifice, mais du service, oui, certainement. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, ses tout premiers mots après son élection, ça a été pour dire, les messieurs les cardinaux ont appelé un humble serviteur dans la vigne du Seigneur. Enfin, je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça. Clairement, lui pensait que l'heure de la retraite était venue. Il avait, je crois, organisé sa retraite en Allemagne, dans un monastère, une abbaye, je sais plus. Non, il aspirait pas à être pape. Mais en revanche, je pense qu'il avait vraiment un sens du service extrêmement, extrêmement fort. je pense pas non plus qu'il était insensible humainement au fait que beaucoup de ses confrères lui disaient « il n'y aura pas de meilleur pape que toi ». Donc voilà, mais je pense pas qu'il y pensait en se rasant le matin, non.
Merci. François, on dit, enfin j'ai lu quelque part qu'on dit que le professeur Ratzinger a été la charpente intellectuelle du pontificat du pape polonais.
Oui, enfin je pense, oui c'est bon. Indéniablement, c'est d'abord un théologien. Bon, plus un théologien qu'un pasteur. Bon, il avait été archevêque de Munich avant, mais c'est pas été forcément.
Ça a duré très peu de temps.
Le top de sa carrière, pas très longtemps. Même après son ordination, il était très rapidement professeur de théologie. Peut-être plus d'ailleurs un professeur de théologie qu'un théologien au sens chercheur. Je reviendrai un peu sur ce rapport à la tradition qui était fondamentale chez lui. On connaît la clarté de ses expressions. Voilà, pour préparer cette intervention, j'ai relu ses discours avant d'être son élection et puis après son élection pontificale. Évidemment, c'est frappant. Il y a une grande continuité d'expression et un souci de la précision. Voilà. Donc, c'est fondamentalement un théologien. Et c'est cet aspect-là que je souhaitais mettre en avant, avec en particulier son rapport fondamental à la raison. Et ça, je crois que c'est un point. Enfin, que je retiens personnellement, hein, c'est pas, je ne prétends pas faire ici une présentation trop générale de sa démarche, mais en tout cas, ce qui m'a vraiment frappé, même si c'est pas un scoop, hein, mais ce qui m'a vraiment frappé en relisant ces textes, c'est cette grande insistance sur la raison. Je reprends ce que disait Guillaume en commençant, sans la continuité, sans la tradition. Il fut un expert, un des plus jeunes experts de Vatican II, pour le rappeler, invité par le cardinal Frings, qui avait remarqué justement à la fois ses connaissances théologiques et son sens pédagogique d'exposé. Et de ce point de vue-là, il a vu dans Vatican II vraiment un retour aux sources. Et c'est là un peu l'ambiguïté justement de qu'on a qualifié de conservateur ou je sais pas quoi ou d'expert repenti, l'expression avait été employée par je ne sais plus qui, mais c'est fondamentalement quelqu'un qui a vu dans Vatican II non pas justement une sorte de conversion de l'Église au monde moderne, mais au contraire un retour aux sources les plus authentiques du christianisme. D'où effectivement son insistance sur la continuité. Réforme évidemment indispensable de l'Église, parce qu'il fallait à la limite renoncer à ce modernisme pour lui, comme pour Henri de Lubac ou pour d'autres. Finalement, l'Église récente était devenue paradoxalement moderniste. C'est-à-dire, ceux qui accusaient des théologiens comme Henri de Lubac de modernisme, en fait, se trompaient complètement. C'était eux les modernistes. Alors que le but, c'était justement de revenir aux sources authentiques du christianisme. Donc, effectivement, l'insistance sur la continuité, le sens d'une tradition vivante. Pour lui, c'est pas un conservateur au sens banal du terme. C'est quelqu'un qui a vraiment le sens du caractère vivant, du développement, du dogme, pour parler comme Newman, et donc de la tradition vivante. Un sens aussi très profond de l'unité de l'Église. Pour lui, vraiment, l'Église, c'est d'abord une communauté, c'est d'abord un corps, et donc tout son souci de réintégrer, en particulier les traditionalistes, enfin ceux qui avaient rompu la communion avec l'Église, tous les efforts qu'il a déployés pour les réintégrer, là, je pense, une différence, on pourra revenir là-dessus, hein, différence avec le pape François en termes de style en particulier, mais aussi de rapport à l'Église. L'image que François aime bien de l'Église comme polyèdre, cette reconnaissance de la pluralité des composantes, on sent que c'est moins, bien sûr, reconnaissez là. La pluralité des membres de l'Église, mais on sent que chez Benoît XVI, il y avait davantage le sens de la, de l'unité de l'Église. C'était un homme de débat. Le débat avec Habermas est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. C'est un homme de discussion, de débat, mais sur le fond de cette unité fondamentale. Je reviens à ce que je disais sur l'importance de la raison. Pour lui, la raison, c'est fondamentalement un enjeu de communication large du christianisme. Et ça rejoint aussi ce que disait Guillaume sur le rapport à l'Europe. Pour lui, il y a vraiment un mariage fondamental entre la pensée grecque et le christianisme. Ce n'est pas simplement une affaire fortuite, quelque chose d'ontologique, on peut dire, dans l'union entre le christianisme et la pensée grecque, la philosophie grecque. D'où, effectivement, son sens très fort de la dimension européenne du christianisme. On sent un sentiment qu'il était moins à l'aise avec le... bien sûr, ouvert au dialogue avec la religion, mais quand même, la dimension d'inculturation du christianisme dans d'autres cultures, les sentiments que c'était moins son affaire. Je pense en particulier aux fameuses conférences de Ratisbonne, de ce lien très profond entre le christianisme et la pensée grecque, dans le sens du rapport à la raison. Effectivement.
Et en ça, il est très 20e siècle, comme le disait Guillaume.
Oui, effectivement. Très 20e siècle. Son goût pour la raison le rapprochait d'une certaine façon des Lumières, paradoxalement. au sens où pour lui, le caractère anti-catholique des Lumières est une sorte de contresens, finalement. Je pense à des propos sur la sagesse biblique comme une sorte de pré-lumière. Enfin, déjà, cette association, cette prise en compte dans le monde biblique de la pensée grecque dans les textes de sagesse, pour lui, c'est déjà, d'une certaine façon, les Lumières à l'œuvre. Voilà. Et pour lui, c'est l'opposition entre foi et science, par exemple, pour lui, c'est un contresens. Pour revenir sur cette question du rapport aux sciences qui m'intéresse particulièrement, évidemment, mais pour lui, il y a vraiment une adéquation profonde. L'encyclique de Jean-Paul II, Foi et raison, on sent la patte Ratzinger par derrière, évidente. L'association foi et raison n'est pas simplement la volonté de faire tenir ensemble à tout prix deux composantes importantes, mais il y a une adéquation profonde entre les deux.
Et son rapport avec Jean-Paul II, du point de vue théologique, c'est lui qui était le penseur du pontificat de Jean-Paul II ou c'est...
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, je pense que Jean-Paul II avait été très marqué par le personnalisme, Ratzinger plus par l'aspiration augustinienne, plus augustinien que thomiste, proprement dit, donc avec cette prise en compte fondamentale de la dimension existentielle et de la personne. Donc, de ce point de vue-là, il y a une convergence entre les deux, même si, Ratzinger est d'abord une culture théologique plus vaste, mais effectivement, on peut dire que c'est le penseur de ce pontificat, oui.
Je vais me tourner vers les étudiants, donc on commence par Piero Loredan. Vous êtes jésuite italien en première année théologie au Centre Sèvres. Vous êtes jésuite depuis 7 ans et vous arrivez de Roumanie et vous êtes passionné de cinéma. Et Étienne de Blois, vous êtes laïque, père de famille et grand-père. En troisième année de cycle intégré de philosophie et théologie, et vous avez repris des études après une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Alors, Pierrot, est-ce que la réaction au sujet, donc Benoît XVI, dernier pape du deuxième millénaire, et des questions éventuelles à nos intervenants?
Ça marche? Oui. Bon. Je peux commencer en disant que je crois que la première vraie rencontre que j'ai eue avec... Joseph Ratzinger, c'était la lecture de son livre « La foi chrétienne, hier et aujourd'hui ». C'était intéressant parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais bon dans la tête les clichés d'une personne bon très traditionnaliste accompagnée de toute une série de d'épithètes plus ou moins jolies comme le Rottweiler de Dieu ou le Panzer Cardinal. Mais je dois avouer que la lecture de ce livre m'a beaucoup impressionné par la clarté, pour la beauté et la profondeur avec lesquelles de nombreux concepts sont, je crois, traités, et aussi pour son extraordinaire, je crois, actualité. De toute façon, il n'aimait pas sembler être l'œuvre d'une personne, comme on dit, fermée ou rigide ou éloignée de la réalité. Surtout, je me rappelle que les premières pages m'ont beaucoup touché, où il parle beaucoup de l'importance des doutes afin de grandir dans la foi. Donc, l'importance de faire face d'une façon libre aux propres doutes, vraiment pour aller de l'avant pour grandir dans ce qui est la foi personnelle. Donc, une attitude qui n'en attend pas d'une personne vraiment très, comment on dit, d'une contrôleur de la foi très, très fermée. Et c'est aussi un passage vraiment qui a inspiré le cardinal Martini à Milano dans l'une de ses initiatives peut-être les plus belles, c'est la chaire des non-croyants, la cathédrale des non-credenti. Mais bon, c'est vrai aussi que j'ai beaucoup entendu dire que bon, il a beaucoup changé après les 68, c'est-à-dire qu'il a été, on peut dire, peut-être bouleversé par les contestations. Donc, peut-être qu'il y a cette idée que vraiment, du progressiste qu'il était, il est devenu un grand conservateur. Donc, ceci, c'était un peu la première perception que j'ai eue sur Ratzinger. Et aussi, bon, j'ai lu maintenant, par exemple, des critiques sur cet aspect. Par exemple, je crois qu'on peut citer Leonard Boff, peut-être c'est pas l'un des plus grands de ses amis, mais
Jeune Libération.
oui, vraiment il a été très dur. À un moment donné, il a dit bon, il était très progressiste au début, mais il s'est aussi laissé contaminer par les virus conservateurs des institutions ecclésiastiques millénaires. Et bon, donc je crois que c'est peut-être un peu dur. Peut-être. Mais de toute façon, la question est-ce qu'on peut vraiment parler d'une première Ratzinger avant les 68 ou est d'une deuxième Ratzinger plus conservateur après les 68? Parce que peut-être j'ai eu l'impression vraiment que plutôt, on peut parler d'une personne qui a toujours resté cohérente avec lui-même, mais peut-être dans sa façon de chercher de garder sa cohérence dans des situations historiques qui ont changé. Donc, une cohérence dans la diversité, c'est la question. Et aussi, je voudrais une autre question. Ça arrive d'un deuxième moment de rencontre avec. Alors, cette fois, je peux dire avec Benoît XVI, parce que dès que je suis arrivé en France, bon, je peux dire que j'ai eu la chance d'avoir un professeur de français assez ambitieux qui a voulu m'apprendre le français à travers les discours de François, de Benoît, au monde de la culture, au Bernardin. Et bon, je crois que c'est vraiment un discours magnifique, magnifique, comme tous les discours de Benoît XVI, je crois. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais bon, peut-être qu'ici, il manque quelque chose. parce qu'il commence en parlant beaucoup de l'origine chrétienne de la culture européenne, qui serait née du monachisme européen, et donc de la contribution du christianisme à la culture européenne, un petit peu comme le disait François. Et bon, je crois que ceci est indéniable. On ne peut pas le nier. Mais en même temps, peut-être qu'il manque la perspective d'une possibilité pour le christianisme de s'enrichir à partir d'une culture qui ne découle pas directement d'une recherche explicite de Dieu. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des ouvrages d'art, des poésies, de la littérature, qui, même si ne trouvent pas ses origines dans une recherche de Dieu, n'est pas explicitement chrétienne, mais pour la façon dont il parle de l'homme, peut-être que ça pourrait enrichir la façon dont on peut vivre la foi. Donc, bon, la question est, est-ce que on peut, bon, c'est seulement mon idée, on peut trouver cette attitude aussi dans d'autres comportements ou ouvrages de pape Benoît XVI?
Première question, donc, un progressiste devenu conservateur?
Alors, moi, je pense que François pourra dire des choses beaucoup plus fondées que moi sur le plan de sa pensée. Ce que je peux dire, moi, c'est à Rome, quelqu'un qui connaissait bien le fonctionnement du Saint-Siège et de la Curie m'a dit, de toute façon, c'est pas une bonne idée de nommer un théologien à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. C'est-à-dire que c'est demander à un théologien de faire quelque chose. Enfin, bon, le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'est un surveillant général, je veux dire, c'est un préfet de discipline, comme on disait autrefois dans les établissements catholiques. Et il n'est pas là pour spéculer, pour débattre, il est là pour faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens. Et de ce point de vue-là, du coup, il y a toujours eu cette... moi, j'ai été très frappé par ça, par le contraste entre l'extrême élégance intellectuelle du cardinal Ratzinger qu'on écoutait, nous, journalistes, dans des conférences de presse qui nous éblouissaient. On avait vraiment l'impression d'être... c'était une incarnation d'intelligence comme j'en ai peu rencontré dans ma vie. L'écouter parler, c'était... vraiment baba d'admiration. Et en même temps, sortait de son administration des trucs épouvantables. Des textes extrêmement difficiles à lire, qui étaient écrits sur un mode, c'était écrit comme un règlement de copropriété, quoi. C'est le contraste, justement. Vous parliez de la beauté des textes de Benoît XVI, je suis complètement d'accord, de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, mais ce qui sortait de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'était vraiment pénible à lire, quoi. Il n'y avait aucune, sensibilité humaine dans ces textes-là. Je pense qu'il y a eu un double, un peu deux niveaux d'analyse pour comprendre ce contraste entre l'élégance de l'homme et, l'élégance intellectuelle de cet homme et la manière dont il a assuré sa fonction de préfet. De préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. La première, c'est que je pense qu'il estimait qu'il avait une mission et qu'il fallait l'accomplir, et que sa mission, c'était de veiller d'être le gardien du dogme, pour parler simplement. Et il l'a fait, sans état d'âme, non, je ne dirais pas ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il l'a fait très consciencieusement. L'autre problème, c'est qu'il était à la tête d'une administration qui est héritière de l'Inquisition et qui fonctionne selon des règles qui remonte très très loin en arrière. C'est la plus vieille, c'est le plus vieux, plus ancien dicastère du Vatican, et ils ont un sens historique extrêmement fort, un peu le mode on a toujours fait comme ça, on ne va pas changer. Or, avec des méthodes qui, alors pour le coup, conviennent vraiment pas au XXIe siècle, quoi, mais même au XXe, c'est-à-dire que tout se passe par écrit quand il y a la mise en cause d'un théologien. tout se passe par écrit. Le théologien en question n'a pas la possibilité de venir s'expliquer lui-même devant ceux qui le mettent en cause. Ça, c'est une dimension. Une autre dimension, c'est que souvent les sanctions étaient secrètes, ce qui pouvait créer des problèmes vraiment très 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 pénibles pour des, notamment des universitaires qui du coup n'avaient pas le ni l'obstacle qui leur permettait de poursuivre leur carrière universitaire dans l'université catholique, mais en même temps, personne ne savait pourquoi il n'avait pas le ni l'obstacle. Enfin, bon, moi, j'ai vraiment connu un cas précis. La personne est aujourd'hui décédée, et j'ai envie de citer son nom, qui est Laurent Villemain, qui est un grand ecclésiologue, qui est mort prématurément. Et j'ai toujours été convaincu que s'il est mort prématurément, c'est en partie parce qu'il a vécu quelque chose d'extrêmement pénible avec la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome. Voilà, donc je peux raconter aussi le cas d'un confrère de François, qui est le père Jacques Dupuis, qui est un Belge, qui travaillait sur une théologie du pluralisme religieux et qui, dont la fin de la vie a été vraiment pourrie par il a obtenu, lui, d'avoir une rencontre avec le cardinal Ratzinger et Mgr Burton, qui était son numéro 2 à l'époque. Mais je pense que sans le poids de la Compagnie de Jésus et l'engagement du père Kolvenbach, qui était le préposé général de la Compagnie à l'époque, il n'aurait jamais pu avoir une discussion de vive voix sur ce qui lui était reproché. Il a reçu, alors j'ai ressorti, enfin excusez-moi, je suis peut-être trop long, mais j'ai reprené les chiffres. C'est une procédure qui a duré 30 mois. Il a reçu 12 pages de questions de la congrégation, il a fait 188 pages de réponses, on lui a reposé de nouvelles questions, il a refait 60 pages, et à la fin, on lui a imposé que sa thèse, son livre, qui est intitulé « Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux », soit précédé d'un avertissement sur de graves ambiguïtés. Voilà. Et il a accepté parce qu'il voulait en sortir, mais il était évidemment pas d'accord avec ce qu'on lui reprochait. Voilà, et c'est des méthodes, mais moyenâgeuses, quoi. Et ce qui est très typique, hélas, c'est que le cardinal Ratzinger a édicté des règles pour moderniser les pratiques de son administration, mais c'est resté complètement lettre morte. Et là, vous voyez apparaître un problème qui s'est aussi manifesté quand il était pape, c'est-à-dire que c'était vraiment pas un homme de gouvernement.
Oui, ce qui est paradoxal, c'est quand même s'il reçoit le père Jacques Dupuis et qu'il discute avec lui, on dit que c'était un homme qui aimait le débat, et finalement il l'a contraint, obligé à rentrer dans le rang.
Il a laissé son administration suivre sa pente naturelle. Moi, je pense que c'est ça le problème. La discussion a sûrement ce jour-là, dans son bureau du palais du Saint-Office, a dû sûrement être d'un niveau absolument admirable et absolument passionnant, mais il n'a pas donné des instructions. Visiblement, il n'a pas donné d'instructions quelconques à son administration qui a continué sur sa ligne. Et l'affaire s'est terminée d'autant plus tristement que Jacques Dupuis est mort peu de temps après.
François, un progressiste devenu conservateur?
Oui. Oui, effectivement, juste pour rebondir sur le dernier point, effectivement, c'était pas un homme de gouvernement. Il s'est entouré de personnalités qui ont posé question. Enfin, je pense au cardinal Burton, et il était conscient du problème. Il ne l'a jamais désavoué. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le contraste entre quelqu'un qui est ouvert au débat. Une fois, je pense à un fameux débat avec Habermas avant qu'il soit élu pape. Il a reçu aussi Hans Küng, c'est un peu son alter ego et sa figure opposée, avec lequel il y a une vraie discussion. Mais voilà, le poids de l'institution était tel. Sur son évolution, deux éléments viennent à l'esprit. D'abord, effectivement, le seuil qui a représenté mai 68 dans les universités allemandes. Il enseignait à Tübingen à l'époque. Ce qui l'a choqué, c'est moins le caractère un peu révolutionnaire, anarchique, déconstructionniste des étudiants. Ce qui est normal, enfin, tout étudiant en théologie non moins constitué doit déconstruire ce qu'il entend. Mais c'est l'attitude de ses collègues en théologie, qui suivaient le mouvement, qui, au lieu justement d'être de rester cohérents avec la grande tradition de l'Église, eh bien commençaient à adopter tous les points de vue possibles et imaginables. Et ça, quelqu'un d'aussi rigoureux que lui, c'était insupportable. Et c'était vraiment le sentiment que il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la théologie. Sa dénonciation récurrente du relativisme s'inscrit dans cette perspective-là. Hein, c'est un thème permanent chez lui, la dimension du relativisme moderne, l'absence de ligne directrice, l'absence d'axe de pensée. Un autre élément qui vient à l'esprit, sans faire trop de psychanalyse facile, il a vécu son adolescence à l'époque du nazisme. Et ça lui a donné une image très, très sombre, finalement, du XXe siècle. Pour lui, le nazisme, ce n'est pas simplement un sort d'épiphénomène, mais quelque chose qui est révélateur d'une dérive de la civilisation moderne lorsqu'elle perd sa référence chrétienne. Et justement, le contraste très fort entre le monde bavarois, la chrétienté bavaroise dans laquelle a vécu son enfance, et cette submersion nazie qui est tombée sur l'Allemagne dans le même temps, fait qu'il a, oui, il avait cette vision très, très sombre, finalement, du XXe siècle. Enfin, je ne sais plus dans quel discours, il fait la liste, justement, entre Auschwitz, Hiroshima, le Goulag, etc. Pour lui, c'est vraiment, il y a un échec de la situation moderne qui ne peut être rattrapé, finalement, que par le réinsuffler l'esprit chrétien dedans. Donc, c'est pas... oui, il y a peut-être une évolution chez lui, mais en tout cas, moi, je suis plutôt sensible à la cohérence de son parcours. Encore une fois, ce retour aux sources authentiques du christianisme et qu'il faut retrouver.
Sur la question de l'origine chrétienne de la culture européenne, le fait qu'il ait pu avoir des apports différents du christianisme que ceux du christianisme, si bien compris la question de...
Oui, je crois que pour lui, chez lui, vraiment la source même de la culture européenne, c'est la pensée grecque et le christianisme. C'est Athènes et Jérusalem. Qu'est-ce qu'il en est de l'islam qui a quand même joué son rôle dans la formation de l'Europe indirectement? Je pense que c'est pas là-dessus, c'est pas... pas très, très sensible à ça. Encore une fois, il reste fondamentalement européen, et pour lui, l'Europe, c'est vraiment l'héritage, ce double héritage d'Athènes et Jérusalem.
Étienne ?
Allô ? Oui. Donc moi, j'ai connu six papes, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, et mieux les trois derniers, donc Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. Et il se trouve que Benoît XVI se trouve entre deux grands communicants, ce qui n'était pas son cas. J'ai été davantage marqué, le premier pacte qui m'a vraiment marqué était Jean-Paul II, avec notamment les JMJ, et les JM, c'est venu au Bourget, etc. Et je veux dire qu'il y a peut-être une parenthèse avec Benoît XVI avant de retrouver... Un pape qui m'entraînait plus avec le pape François. Et néanmoins, je note quand même qu'à chaque fois qu'un pape a été élu, je me suis dit que c'était le Saint-Esprit qui nous le donnait, et donc il fallait, il y avait sûrement de bonnes choses qui allaient venir. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui m'a marqué au jour de l'élection du pape Benoît XVI, c'est quand il est sorti pour rencontrer la foule, il était tout souriant. Ce qui n'était pas tout à fait l'image que je me donnais, a priori, de quelqu'un qui recevait une charge qu'il n'aurait pas désirée. Voilà. Mais enfin bon, c'est une anecdote, mais qui m'avait marqué. Ce qui me marque donc, c'est cet écart. J'étais frappé par ce qui a été dit dans la presse pendant son pontificat, et à l'inverse de ce qui est dit dans la presse aujourd'hui. Aujourd'hui, on a presque l'impression qu'on veut le sanctifier immédiatement, peut-être le nommer docteur de l'Église, alors que pendant son pontificat, il a quand même été très, très lourdement critiqué. Et est-ce que c'est donc pas un écart de communication, qui serait donc ma première question, entre un professeur de théologie, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, et un pasteur, hein? Et on voit que sur de nombreux sujets, il n'a pas su faire passer le message pourtant juste qu'il délivrait. Et si on pense par exemple à l'épisode du sida, où manifestement il n'avait pas tort sur le fond et vraiment tort sur la forme, et donc déprécier le message de l'Église. Une seconde question serait peut-être, pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'organisation de l'Église et de la gouvernance, si en fait ce n'est peut-être pas un pape trop bon, hein, ou peut-être bon au point d'être naïf, et de s'entourer de personnes qui l'ont trahi de tous côtés, avec le dernier exemple qui était celui du Vatilix. Et puis enfin, peut-être un peu en contrepoint de ce que vous disiez, en disant que c'était un pape du second millénaire, est-ce que néanmoins il n'a pas quelques aspects d'un pape du troisième millénaire? Est-ce qu'il n'a pas servi de tremplin aussi au pape François, notamment avec sur le début, peut-être qui n'a pas rencontré beaucoup de succès, mais le début d'une réforme de l'Église, avec ses prises de position sur les abus qui sont les premières quand même dans l'Église, hein, très tôt, et puis avec sa démission, qui quand même marque une nouvelle étape. Et qui ouvre peut-être de nouvelles perspectives dans l'Église.
Un bon théologien, mauvais communicant?
C'est sûr qu'être entre deux papes rockstars, c'est pas facile, oui. C'est certain. Je veux dire, Jean-Paul II, que j'ai pourtant approché vraiment dans ses, comme tu citais tout à l'heure, les dernières bonnes années, mais il était quand même déjà très, très, en très mauvaise santé. C'était très très impressionnant de voir sa capacité de contact avec les foules, notamment avec les jeunes, etc. Et de ce point de vue-là, c'est sûr que... Alors, il faut reconnaître un grand mérite à Benoît XVI, c'est qu'il n'a jamais cherché à faire du Jean-Paul II. Il a eu cette humilité de ne pas essayer de jouer au... essayer d'être une bête de scène, ce qui était vraiment, et je le dis vraiment affectueusement, hein, ce qui était vraiment Jean-Paul II. Du coup, il a aussi amené à expérimenter des choses différentes, c'est-à-dire que par exemple les temps de silence et de méditation pendant les JMJ sous Benoît XVI, je crois, ont été une expérience assez extraordinaire pour ceux qui y ont participé. Voilà, il a fait vivre sans doute une dimension plus contemplative, plus spirituelle que ce qu'on a vécu sous Jean-Paul II. Effectivement, défaut de communication. L'exemple vraiment qui reste en mémoire, c'est celui du discours de Ratisbonne, où effectivement un discours qui était un remarquable discours académique, ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, a été une catastrophe terrible sur le plan de la communication entre guillemets politique. Il s'est laissé un petit peu, je crois qu'il l'a presque reconnu lui-même, un petit peu emporté par justement cet exercice académique et apparemment personne n'avait relu son discours avant. Et ça a été vraiment une chose extrêmement dommageable. Mal entouré, oui, c'est un pape qui est, François, j'ai cité le nom de Mgr Bertone, qui a été son numéro 2 à la Congrégation pour la doctrine de la foi, puis son secrétaire d'État comme pape, et effectivement, qui était très mauvais. Et on peut effectivement citer des exemples comme ça, où on voit qu'il n'a pas su bien choisir les hommes autour de lui. Et en même temps, vous avez tout à fait raison de dire qu'il avait fait de très bons diagnostics sur un certain nombre de problèmes de l'Église, notamment sur la question des abus sexuels et sur la question de la gestion financière, mais que on retrouve la question du handicap de gouvernement. Il n'a pas réussi à le mettre en œuvre. C'est vrai que vraiment, j'ai énormément aimé Jean-Paul II et suivre son pontificat, etc. Mais il faut reconnaître qu'il a laissé derrière lui, sur la question des abus, un héritage qui est extrêmement lourd et extrêmement douloureux. Benoît XVI a tout de suite, dès sa prise de fonction, commencé à changer le cap, notamment à propos des légionnaires du Christ et du cette congrégation. Le père Massiel, il avait fait de très bons diagnostics, mais il n'a pas réussi à les mettre en œuvre. Il a eu la lucidité, effectivement, de d'assumer cette difficulté et de se retirer, ce qui est certainement quelque chose qui représente pour l'Église, en tout cas pour le fonctionnement du gouvernement de l'Église, quelque chose de tout à fait considérable qui marquera l'histoire.
François.
Oui, je reviens sur le discours de Ratisbonne, qui effectivement est un cas d'école très intéressant. C'est une très belle défense de la raison dans la foi. Vraiment cette insistance sur la nécessité de la place de la raison dans l'acte de foi, et une critique de l'inverse, c'est-à-dire une valorisation, je dirais, de la sagesse divine, et une critique très forte de ce qu'il appelle le volontarisme divin, d'un Dieu arbitraire, hein, l'image, comme si l'action divine était arbitraire. Avec effectivement une tendance à lire l'islam à travers cette grille. C'est là où on voit que, effectivement, ça pourrait être un très bon départ de débat avec des musulmans, de dire est-ce que votre vision de Dieu n'est pas trop arbitraire ? Cette transcendance extrême, cette volonté de Dieu qui s'impose et qui demande la soumission totale des croyants, est-ce que vous pensez que c'est acceptable d'un point de vue humain, etc. Ça pourrait être un très bon départ de débat. Mais le problème, c'est que énoncer comme tel aussi brutalement, ça ne peut qu'entraîner des réactions très violentes de la part des musulmans qui prennent ça au premier degré. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple typique, effectivement, de cette ambiguïté. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que ces propos, qui sont essentiellement des discours, mais même les propos qu'ils pouvaient tenir devant des journalistes, on a le sentiment que c'était toujours des textes très réfléchis, très préparés. Et donc, le contenu choquait, ça devenait tout de suite une affaire mondiale. Le pape François passe son temps à improviser avec des formules qui posent peut-être parfois encore plus de problèmes, mais bon. Dit oui, bon, voilà, c'est son improvisation, c'est son style, sa manière de faire, c'est pas trop grave. On peut faire la liste des propositions, des propos du pape François qui soulèvent quand même des questions assez graves, mais ça n'a jamais entraîné le même type de réaction que les propos de Benoît XVI, ce qui indique effectivement une différence de style en termes de communication.
Sur les prises de position, sur les abus, sur la démission. Le pape
Alors, effectivement, on n'a pas encore beaucoup parlé de cette affaire de renonciation. C'est plutôt le mot de renonciation qui s'impose que de démission, qui, effectivement, a surpris tout le monde. La manière de penser, ce n'était pas du tout annoncé avant. Ça reste, je crois, beaucoup n'ont pas bien compris ce qui se passait, parce qu'il a dit en latin. Donc, bon, heureusement, je crois que quelques journalistes qui connaissaient le latin, donc une, voilà, c'est ça, qui a pu tout de suite réaliser ce qui se passait. C'était étonnant parce que, à certains égards, ça a désacralisé la fonction pontificale. Le pape n'est plus... Vous savez, on se rappelle la phrase de Jean-Paul II, quand on lui parlait de démission à la fin, Jésus n'est pas descendu de sa croix. Comme si, finalement, le pape était une sorte de réincarnation de Jésus. Bon, Benoît XVI, qui était tout à fait conscient qu'il avait été témoin de ça, était assez bon théologien pour... comprendre que ça ne peut pas fonctionner comme ça, et que le pape est une fonction, et que le jour où la personne ne peut plus assumer cette fonction, eh bien, canoniquement, elle peut renoncer, et donc elle doit renoncer. Bon, il avait été aussi témoin de la fin de Jean-Paul II, et ce que Guillaume a très bien décrit tout à l'heure, c'est-à-dire où tout s'est grenouillé autour, profiter du fait qu'il était out pour mener des affaires problématiques. Donc vraiment cette renonciation montre, oui, à quel point c'était quelqu'un tout à fait conscient de cette fonction et rigoureux dans sa théologie. Je crois que ça a changé, on peut dire, l'image du pape de ce point de vue-là. Enfin, ça l'a remis. Je repense à ce que disait Enzo Bianchi après l'élection de pape François. Le pape s'est fait homme. Et ça, je crois que c'était essentiel de retrouver ce qui est une banalité théologique. Le pape est un homme, rien de plus. Bon, c'est important de retrouver cela. Par rapport aux abus, oui, ça a été dit, même si peut-être, je ne suis pas sûr qu'il ait réalisé le caractère systémique de ce que représentent ces affaires d'abus. Et pour lui, il était très conscient qu'il y avait une incohérence, évidemment, entre la personne du prêtre et ses abus. Donc c'était... il fallait dénoncer. Enfin, le dossier de Massiel était tel que c'était pas possible une incohérence trop grave pour rester silencieux face à cela. Aussi un autre point par rapport à cela, il était beaucoup moins fasciné que son prédécesseur par les communautés nouvelles et par le nombre. Là aussi, il était conscient que dans le monde moderne, le christianisme était forcément minoritaire et qu'il fallait mieux des minorités cohérentes d'un point de vue chrétien que des grands nombres. Et donc il était tout à fait conscient que ces grands nombres étaient acquis au profit d'une théologie parfois déviante. Donc ça, là-dessus, en particulier, autant Jean-Paul II pouvait être critique à l'égard des ordres anciens et fasciné par la communauté nouvelle, autant Benoît XVI a redonné sa confiance, pour nous, bien placé pour le savoir, a redonné sa confiance aux congrégations anciennes, était plus critique à l'égard des communautés nouvelles.
On a encore une demi-heure, on va passer aux questions dans la salle. S'il y a si vous voulez lever la main, un micro. Une question là-bas, monsieur, à droite, de l'autre côté. Merci. Il y a des questions sur le net aussi. Il y a des questions sur le net ou pas ? Non.
Simplement, vous avez fait allusion...
À... Parlez bien dans le micro.
Ah, pardon, excusez-moi. Vous avez fait allusion à l'islam. Et les relations, je dirais, entre le christianisme et l'islam, à quoi pensiez-vous quand vous avez parlé de l'islam ? Parce qu'il y a quand même un...
Parlez bien dans le micro.
Je dirais qu'il y a quand même un viaduc immense entre la liaison entre le christianisme et l'islam. Et je voulais savoir quel était le fond de votre pensée. Voilà.
C'est pour François, je suppose ?
Oui, c'est à propos du discours de Ratisbonne, où vous souvenez, le point de départ, c'était la citation du débat entre l'empereur de Byzance et un théologien musulman, où les propos de fait de l'empereur byzantin étaient très violents à l'égard de l'islam. Bon, la pointe n'était pas évidemment là-dessus. Mais la pointe était sur la représentation de Dieu du côté du christianisme pour Benoît XVI. Ce qui mettait en avant, c'est la sagesse, l'intelligence, la raison du côté de Dieu. Et pour, disons, au moins pour l'empereur de Byzance, dans la vision que l'empereur byzantin avait de l'islam, que Benoît XVI semblait pour une part reprendre à son compte, le dieu de l'islam est un dieu à l'action arbitraire. Voilà. L'accent étant mis sur la toute-puissance divine, il fait du reste un rapprochement avec l'école nominaliste, du côté chrétien. Donc l'accent étant mis sur la toute-puissance divine et donc sur la soumission du croyant. Alors que pour lui, dans le christianisme, il y a davantage une analogie, enfin un lien qui se fait entre le croyant et son Dieu par le biais de la raison. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que Ratzinger, Benoît XVI pensait effectivement de l'islam, mais pour lui, encore une fois, la pointe de son propos n'était pas une critique de l'islam, mais c'était plutôt une valorisation de la raison au sein du christianisme. Il aurait peut-être pu prendre un autre exemple que ce dialogue initial aurait été peut-être plus pertinent, plus efficace en termes de réception. Mais voilà ce qu'il a choisi de prendre comme point de départ.
Ce que je peux ajouter brièvement, c'est que Benoît XVI, notamment après le discours de Ratisbonne, a pris conscience de l'importance d'entretenir des relations avec l'islam. Puisque une de ses décisions avait été de d'éloigner l'homme qui était en charge du dialogue interreligieux, Mgr Fitzgerald. Et après le discours de Ratisbonne, il a redonné au dialogue avec l'islam une importance, au dialogue interreligieux en général, mais avec beaucoup sur la question de l'islam, en nommant le cardinal Thoran pour s'occuper du dialogue interreligieux. Et la fin de son pontificat a été marquée quand même par une volonté de restaurer ce qui avait été endommagé, même si certainement, passez-moi une expression si familière, c'était pas du tout sa tasse de thé. Il avait vraiment pris conscience après le discours de Ratisbonne que voilà, il était absolument nécessaire d'entretenir des relations, ne serait-ce que entre guillemets diplomatiques, avec les autres religions.
Monsieur Offon,
est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ces initiatives quant à la liturgie préconciliaire et le fait que le pape François a jugé que c'était important d'évoluer encore plus?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments, me semble-t-il, hein, qui ont joué. D'une part, comme je l'ai dit, le souci de l'unité de l'Église. C'est donc vraiment, mais ça, limite, François a le même souci, le souci de réintégrer les communautés qui s'en sont séparées, donc les communautés traditionnalistes. Bon, donc faire tout ce qui est possible de faire, dans le respect évidemment de la discipline de l'Église, pour cela. Il y a aussi évidemment chez lui, certainement, un goût pour les belles liturgies, peut-être une nostalgie des liturgies anciennes, et qui fait que il n'a pas cette distance à l'égard de la liturgie tridentine que peuvent avoir des gens de générations plus récentes. Il y a effectivement chez lui un fort goût esthétique. On sait bien qu'il était pianiste, il aime beaucoup la musique, son discours aux Bernardins du reste en porte la trace. Donc tout ce qui est de l'ordre effectivement de la Bon, on voit bien, effectivement, la belle liturgie, voilà, la belle liturgie issue d'une longue tradition, très cohérente, etc. On le voit, effectivement, beaucoup moins à l'aise dans une liturgie plus improvisée, même si elle est plus vivante, plus participative. Je pense que chez lui, il y a peut-être le côté, me semble-t-il, c'est un peu rapide ce que je dis là, mais le côté esthétique primé sur la dimension de participation, avec ce que ça peut comporter de maladresse évidente. Enfin, dans nos liturgies de paroisse, enfin, quand on est dans les paroisses ordinaires, on est bien conscient de ça. Bon, la liturgie, c'est pas être parfait, hein, parce que bon, les chanteurs sont pas au top, l'organiste parfois joue un petit peu faux, l'assemblée chante, n'en parlons pas. Bon, et ça, on voit bien qu'il devant un spectacle, devant un tel événement, il ne veut pas se sentir à l'aise. Voilà. Donc je pense que ça, tous ces éléments ont joué. Et puis en face, le sens de la tradition, même si encore une fois, c'est pas un traditionnaliste au sens de Lefebvre du terme, genre, théologiquement, il n'était pas favorable à ce mouvement. C'est pas, je dirais, un intégriste caché, pas du tout. Mais bon, il y avait quelques résonances possibles effectivement à travers la liturgie, certainement.
Moi, je voudrais raconter une toute petite anecdote, mais bon, je pense que ça témoigne aussi du tempérament de cet homme. J'avais assisté pendant le jubilé, enfin à l'approche du jubilé, pendant le jubilé, il y a eu des synodes continentaux, et l'un des derniers, peut-être le dernier de ces synodes continentaux, c'était sur l'Océanie. Et Il y a eu la messe d'ouverture dans la basilique Saint-Pierre, avec des chants mélanésiens absolument magnifiques. Et des dames sont venues apporter à tous les cardinaux qui étaient en cercle autour de l'autel, comme il est de tradition, d'énormes colliers de fleurs. Et tous les cardinaux se sont retrouvés avec un collier de fleurs autour du cou. Je peux vous dire que la plupart des cardinaux l'ont rapidement enlevé et que cardinal Ratzinger a été un des seuls cardinaux qui a gardé son collier de fleurs autour du cou pendant toute la célébration. Et je pense que ça témoigne aussi d'une partie de lui-même, c'est-à-dire d'un grand respect pour les personnes qui avaient fait ces colliers de fleurs. Et voilà. Ça l'empêchait pas, par ailleurs, effectivement, comme l'a très bien dit François, d'avoir des goûts extrêmement classiques en matière de liturgie, mais s'il se trouvait dans une situation où il devait honorer quelque chose qui n'était pas véritablement tridentin, il le faisait avec beaucoup de conscience.
Encore des questions dans la salle? Oui, madame. Madame, d'abord devant. Oui, merci.
Je n'avais pas du tout parlé de tout ce qui concerne l'éthique et la morale. Peut-être que je vais dire une énorme bêtise, mais Humanae Vitae, l'encyclique Humanae Vitae, est-elle de son temps ou est-elle d'une autre période? Mais il me semble que Benoît XVI avait la réputation d'être extrêmement réactionnaire dans ce domaine, éthique et moral.
Je dirais, peut-être couper les micros parce que HS qui avait des interférences. Je dirais plutôt quelqu'un de très rigoureux. Pour lui, alors Humanae Vitae, c'est bien avant, hein, c'est 68. Hein. Humanae Vitae, il y a l'influence de l'alors cardinal Karol Wojtyła, qui était, on sait bien que la commission que Paul VI avait réunie était plutôt favorable à la moyen chimique de contraception, mais que le pape finalement, avec l'influence du cardinal de Cracovie, a décidé autrement. Là-dessus, oui, Ratzinger avait une position, conforme à une grande rigueur théologique. De ce point de vue-là, c'est là où, effectivement, on voit la différence avec le pape François. On peut penser à cette fameuse phrase qui a fait le tour du monde, « Qui suis-je pour juger ?» C'est typiquement une phrase que Ratzinger n'aurait pas pu employer, me semble-t-il. Cette sorte de sentiment, voilà, qui suis-je pour juger, parlons-en, discutons-en. Bon, pour lui, je ne sais pas ce qu'il a pensé quand il a entendu cette phrase-là, mais sa dénonciation récurrente du relativisme comme une sorte de, finalement, de prise en compte de l'air du temps. Je pense que tout ce qui était de l'ordre de l'évolution des mœurs, je pense pas que qu'il était sensible à cette question-là. Pour lui, il y a une anthropologie chrétienne permanente. Paradoxal, parce que je parlais tout à l'heure d'une tradition vivante, mais je pense que pour lui, il y a quand même une anthropologie permanente qui le rendait peu sensible à ce qui est de fait une évolution des mœurs. Pour lui, l'évolution des mœurs, c'est plutôt une conséquence du relativisme moderne, d'une raison devenue finalement instrumentale, qui a perdu la rigueur de ses principes, ce qui fait qu'effectivement, il y a des positions qui sont pas elles sont cohérentes, hein, les textes en termes de bioéthique ont une cohérence intellectuelle, mais c'est ça aussi la différence entre lui et le pape François. Peut-être que justement sa rigueur intellectuelle a pu l'empêcher de percevoir ce qui est peut-être à prendre en compte dans les évolutions de l'époque contemporaine. Et quelqu'un qui est plus pastoral, plus homme de dialogue. Alors évidemment, chez le pape François, on peut lui reprocher de... Évidemment, quelles sont ses positions. Enfin, bon, il en a quand même, mais c'est peut-être plus flou. Le côté pastoral, finalement, est premier chez lui.
Guillaume.
En fait, j'essayais là de réunir mes souvenirs. J'ai pas l'impression que les questions éthiques et morales ont tenu dans son pontificat une place aussi importante que sous Jean-Paul II ou sous Paul VI. J'ai pas souvenir, mais peut-être j'ai des choses qui me sont sorties de la tête, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait eu de choses véritables. Bon, vous faisiez allusion tout à l'heure à une déclaration sur le préservatif qui avait fait beaucoup de bruit, mais elle avait été quand même très sollicitée par les journalistes. Il faut quand même savoir que le problème souvent qu'ont eu les papes dans la période récente, c'est qu'on les poussait beaucoup à s'exprimer sur ces sujets-là et que parfois ils se faisaient piéger. En même temps, il a écrit une encyclique, moi ça m'avait frappé à l'époque, enfin une encyclique sur l'amour, où il était question d'Eros, ce qu'on n'attendait pas vraiment de lui et ce qu'il a fait brillamment. Effectivement, enfin, je rejoins François pour dire que pour lui, il n'y avait pas de doute sur la voie à suivre. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'il ait été un milliard. Bon, il y a eu cette question des points non négociables qui a été là aussi un petit peu instrumentalisé par certains, parce que ce qu'il a dit était beaucoup plus riche que le résumé qui en a été fait par certains mouvements pro-vie. Je pense qu'effectivement, il était vraiment dans une démarche intellectuelle extrêmement cohérente, mais il n'a pas été un militant autant qu'a pu l'être Jean-Paul II, par exemple.
Merci, madame.
Vous avez dit qu'aujourd'hui, on est plus admiratif, en quelque sorte, de lui qu'à l'époque où il exerçait son pontificat. Moi, je dirais plutôt un peu le contraire. Je trouve qu'on est plus lucide sur son évolution, sans juger l'homme, évidemment. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais vous avez dit qu'il était donc l'élégance de l'homme, le gardien du dogme, et il développait beaucoup le côté administratif et le côté règlement, même sur les abus. Il a pris des mesures plutôt administratives et de réglementation. Et moi, le père Cézoué a écrit l'histoire du dogme. Les dogmes, à l'origine, c'est la parole de Dieu qui, petit à petit, prend la définition, enfin, se devient un dogme. Mais à la base, c'est la parole de Jésus. Et les abus, c'est quand même pour nous, pour ceux qui en entendre parler ou ceux qui en pâtissent, enfin, dans son objet, c'est d'abord un objet de scandale. Penser qu'un prêtre détourne ce pour quoi il a été ordonné, c'est d'abord un objet de scandale. Et l'origine, vous savez ce qu'en dit Jésus sur celui qui commet un scandale. Donc, je trouve que ce côté à l'origine, puisque c'est un retour aux sources, vous nous dites qu'il a pratiqué un retour aux sources, je trouve qu'il a fait par la suite un texte sur la parole de Dieu, mais ce n'est pas relié, je trouve. Et encore aujourd'hui, on ne dénonce pas ce côté qui fait abandonner à beaucoup de personnes l'Église, et ce côté scandale, à la fois le sacrement de pénitence aussi détourné détourné de sa fonction, qui en est toujours, et on va pas juger, je jugerai pas les hommes qui les commettent, c'est pas à moi de le faire, mais qu'au moins on dénonce ouvertement ce que c'est à la base. Quand même, à connaître tout ce qu'il a fait, Benoît XVI, bien qu'il a changé, ça, semble-t-il, à la fin, il en a pris plus conscience de ce côté vaste des abus systémiques, je trouve qu'on en on ne met pas l'accent sur la parole de Dieu, la parole de Jésus qui est...
C'est peut-être un jugement un petit peu sévère, parce que je pense sincèrement qu'après, pour moi, a posteriori, quelque chose qui me paraît assez incompréhensible, sous Jean-Paul II de déni par rapport à ce qui se passait. Vous savez, quelques jours avant la mort de Jean-Paul II, c'est le texte de la méditation du Vendredi Saint au Colisée a été fait par le cardinal Ratzinger, et il a dit ce jour-là des choses qui ont vraiment extrêmement frappé et qui justement renvoyaient vraiment à l'écriture, à la parole du Christ, etc. Et je retrouve que de souillures dans l'Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, devraient lui appartenir totalement, combien d'orgueil et d'autosuffisance. Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque prête à couler, une barque qui prend l'eau de toutes parts, et dans ton champ, nous voyons plus d'ivraie que de bons grains. Les vêtements et le visage si sales de ton Église nous effraient, mais c'est nous-mêmes qui les salissons, c'est nous-mêmes qui te trahissons chaque fois, après toutes nos belles paroles et nos beaux gestes. Prends pitié de ton Église. C'est des propos qui avaient fait... Ah si, à l'époque, ça avait fait quand même beaucoup de bruit. Ça avait beaucoup frappé. Eh oui, tout à fait. Mais... Encore une fois, là, je rejoins François quand il disait tout à l'heure que le cardinal Ratzinger n'était pas forcément lucide sur le caractère systémique de ces abus, sur le fait qu'il mettait ça beaucoup sur le compte de 1968, ce qui me paraît une erreur totale, si je puis me permettre. Mais il restera quand même comme le pape qui a amorcé la lutte contre les abus dans l'Église.
Oui. Une question devant.
Deux questions de ceux qui nous suivent sur Internet. Une première de Jean-Baptiste Kikwaya. Le pape Benoît XVI n'est-il pas resté prisonnier de son héritage gréco-chrétien au détriment d'autres cultures? Et qu'en est-il de son rapport à des théologiens qui ont pris une certaine distance avec cet héritage comme Bultmann ou Gustavo Gutiérrez? Et une question de Jérôme Vignon. Comment interprétez-vous l'immense succès remporté par Benoît XVI lors de ses interventions devant les chambres parlementaires? Au Bundestag ou au Royaume-Uni notamment.
Alors pour la première question, oui, c'est vraiment un Européen encore une fois. Je pense que c'est pas, bon, il a fait des voyages en tant que pape, mais je pense pas qu'antérieurement il soit beaucoup intéressé aux cultures non européennes ou aux religions, a fortiori religions non européennes. Son critère de jugement, c'est vraiment la tradition européenne même s'il a évolué sur la question du dialogue interreligieux, il avait été critique de la rencontre d'Assise de 86 proposée par Jean-Paul II dans la rencontre des religions. Bon, ensuite il a lui-même présidé des rencontres les 40 ans je crois les 30 ans, oui. Les 20 ans, parce que je calcule mal. Les 20 ans d'Assise. Donc, il avait compris l'importance. Il est assez intelligent pour comprendre l'importance de ça. Mais je pense que culturellement, il reste quand même très marqué par son héritage classique, simplement. Et je pense peu sensible au bouddhisme, à l'hindouisme, etc. Ce qui peut. Bon. Il me semble qu'il y a ça fondamentalement hein, dans sa démarche. Bon, rapidement pour la deuxième, je vais essayer Guillaume répondre plus de. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui justement du fait de sa défense par exemple de la raison, hein, c'est pas quelqu'un qui va tout de suite citer l'Écriture ou défendre une particularité chrétienne contre le monde profane. La prise en compte de la raison fait qu'il est à l'aise, encore une fois je reviens à son, c'est emblématique, son dialogue avec Habermas, ils sont vraiment de plein pied. Et dans sa prise de parole, c'était encore Ratzinger à l'époque, a des références philosophiques qui sont tout à fait audibles par Habermas. C'est pas quelqu'un qui va opposer... l'écriture ou des textes chrétiens à des philosophes profanes. On avait remarqué que depuis que l'encyclique, il cite Nietzsche, c'est une véritable, hein, il cite des philosophes, ce qui Bon, ce qui pour nous est relativement banal, enfin, au centre Sèvres, ça ne choque personne, mais ça avait étonné hein, qu'un pape fasse autant référence à une tradition philosophique. Mais c'est tout à fait cohérent avec son itinéraire, et c'est pas surprenant que ses discours, effectivement, devant des assemblées profanes, pas seulement universitaires, mais même politiques, soient très bien passés.
Non, juste ajouter un peu pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il c'était, j'irais jusqu'à dire un grand charmeur. Il avait vraiment une capacité à s'adresser à des auditoires comme ceux-là. Je veux dire, on se sentait intelligent en l'écoutant. Donc c'est quand même quelque chose de relativement plaisant de se sentir intelligent. Et donc j'imagine que face à des politiques qui sont souvent à dépenser beaucoup d'énergie sur des querelles plus ou moins secondaires, pendant quelques heures être dans un très haut niveau de pensée et de réflexion, ça doit être quelque chose qui leur fait du bien, quoi, tout simplement. Et bon, il y a l'exemple, c'est pas mal raconté dans la Croix Lebdo cette semaine, du discours de Bernardin, où il avait en face de lui vraiment tout le panorama possible du monde intellectuel et artistique français, y compris des gens extrêmement éloigné. J'ai appris en lisant l'article avec Catherine Millet, par exemple, qui en sont tous sortis ébahis par ce qu'ils avaient entendu. Il avait un talent absolument exceptionnel pour ça.
D'autres questions? Oui. Attendez, on va attendre un micro.
On peut envisager une future béatification, voire une canonisation de Benoît XVI.
Bon, je ne sais pas si c'est opportun de canoniser systématiquement tous les papes. Si je peux me permettre une remarque un peu ironique ou peut-être un peu excessif que je tiens d'un confrère jésuite, qui rappelait qu'à la fin de l'Empire romain, les empereurs se divinisaient les uns les autres. Alors, je ne sais pas si c'est applicable à l'Église, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est très bon signe que systématiquement tous les papes soient quasiment automatiquement. Alors, justement, ceux qui ne le sont pas, on se demande pourquoi. On demande pourquoi Pie XI n'a pas été encore canonisé. C'est quand même une figure importante. Parce que Pie X, Benoît XV non plus. Bon, oui, alors Pie XII reste un peu dans les purgatoires. Mais voilà, donc bon, là, je pense que lui-même, je ne sais pas comment il se, dans son fort intérieur, ce qu'il pensait de la canonisation de Jean-Paul II, je ne suis pas certain qu'il était très enthousiaste, mais je n'en sais rien.
Ce dont je peux témoigner, c'est que quand il avait été question d'une canonisation, béatification, canonisation express de Mère Teresa, il s'était prononcé contre le fait de ne pas respecter le délai, alors je ne sais plus si c'est 5 ans ou 10 ans après la mort, avant d'ouvrir un procès de béatification. Mais en même temps, il est celui qui a accepté que ce soit le cas pour Jean-Paul II. Donc voilà, il y a une pression, mais moi personnellement, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un qui dise clairement avant sa mort qu'il ne veut pas l'être, quoi. Parce que ça permettrait d'arrêter la. Non, mais c'est une vraie question. Je veux dire, effectivement, si on ne béatifie pas Benoît XVI, tout le monde va se dire, bah pourquoi lui et on a béatifié Jean-Paul Ier. Tous les papes récents sont béatifiés. Et voilà. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un, effectivement. Alors, ce ne sera pas le cas de Benoît XVI parce qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet, mais on peut encore espérer que ce soit le cas du pape François qui dise non, moi, ne me béatifiez pas. Je veux dire, un pape, c'est un homme de gouvernement, malgré tout. Je veux dire, et il doit faire des choses qui sont difficiles, délicates, etc. Et encore une fois, pour prolonger ce que j'ai répété plus souvent tout à l'heure, moi je n'arrive pas à dire Saint Jean-Paul II à cause de sa gestion des abus. Et bon, en disant cela, je commets une faute au regard de la doctrine catholique, car je dois admettre ça comme une vérité d'Église. Donc je souhaite beaucoup que le pape François dise « Je ne souhaite pas être béatifié. Ne me béatifiez pas. »
Oui, une toute dernière question.
Une dernière question sur la renonciation à sa charge. Donc c'était quelque chose qui n'avait pas été fait depuis très longtemps. Et peut-être permet une reconsidération de la charge papale et ouvre la voie pour certains de ses successeurs éventuellement de faire la même chose. Est-ce qu'on peut imaginer, comme il est décédé, qu'il y ait une législation, enfin que le cadre légal du statut de pape émérite soit cadré législativement avant qu'il y ait peut-être une autre occurrence?
Alors oui, deux choses. D'abord, le principe même de la renonciation est classique. Il y a rien n'empêche un pape de renoncer à sa charge. C'est prévu dans le Autant Dieu sage en droit canon. Mes souvenirs sont un peu anciens. En revanche, ce qui a posé problème et ce qui pose problème, c'est le titre de pape émérite. Je crois que François s'est prononcé là-dessus. Il serait préférable de dire évêque de Rome émérite. Hein, il y a des évêques émérites, il y en a un bon paquet. C'est tout à fait légitime. L'autre question, c'est doit-il continuer à porter une soutane blanche alors qu'il n'est plus pape? Autant que je sache, je ne sais plus quel pape dans le passé, mais c'était ce qui m'étonne, c'est que c'est... Enfin, en tout cas, je ne sais plus quel pape dans le passé, après sa renonciation. Alors c'est peut-être pas un vrai pape, c'est peut-être à l'époque des schismes, bon. Avait repris la tenue de cardinal. Voilà. Et non pas... bon, ça me paraîtrait effectivement plus... Enfin, ça, bon, c'est pas un point central de l'ecclésiologie, mais enfin c'est quand même symboliquement d'autant moins de peu d'importance que il y a eu cette ambiguïté quand même, au sens où il a pu être instrumentalisé par des courants opposés au pape François, hein, faisant valoir des propos qu'il aurait tenus pour critiquer le pape François. Le
y compris
pape
ces derniers jours, en l'occurrence.
Pardon ?
Y compris ces derniers jours avec Gernstein.
Voilà, exactement. Jouer là-dessus. Ce qui, effectivement, est très problématique. Bon, ça n'a pas été... Je pense que lui-même n'était pas trop complice de ça, mais effectivement, il faut éviter ce genre de situation.
Guillaume, une dernière...
Non, tout à fait, c'est une situation qui est complètement nouvelle, donc effectivement, il y a besoin de... Enfin, c'est quelque chose qui est en train de s'inventer, d'une certaine façon. Il y a toute raison de penser que ça se reproduira. Et effectivement, il faut trouver des modalités. Alors, est-ce que ça doit être formalisé dans des règles de droit? Probablement un peu, mais je pense qu'il faut aussi beaucoup de bon sens. Une des difficultés a été quand même dans le cas précis que il est resté vivre au Vatican aussi. Je veux dire, c'est peut-être aussi une règle qui... Pardon ? Alors, il y a eu un petit côté colomber les deux églises pendant la traversée du désert, oui. Mais bon, moi, pour avoir été Vatican Watcher, comme disent les anglo-saxons, j'ai toujours trouvé étrange le fait que, en même temps très compréhensible, mais le fait que les personnes qui quittent des fonctions au Vatican, généralement, ne quittent pas Rome. Et rares sont ceux qui retournent vivre dans leur pays d'origine ou dans leur... voilà, on pourrait imaginer que le pape, l'évêque émérite de Rome, se retire dans une communauté religieuse, etc. Et qu'effectivement, la règle plus ou moins écrite soit qu'il observe le silence.
Merci beaucoup. Il est 20h45, donc on va... clore nos débats, mais Étienne voulait...
J'ai deux annonces à faire. Donc la première, c'est que je vous signale que le Centre Sèvres a lancé une enquête de perception sur lui-même et nous vous serions reconnaissants si vous pouviez prendre 5 minutes pour aller sur le site et y répondre. Et il y a une autre possibilité de le faire, c'est qu'à l'entrée de la salle, vous avez des affiches avec un QR code que vous pouvez saisir pour avoir cette enquête. Le second point, c'est de vous remercier de votre présence à tous ce soir. Cette soirée est proposée sur participation libre. Si vous aimez les mardis de l'éthique publique, pardon, vous pouvez les communiquer le fait que le replay, l'enregistrement sera disponible sur le site. Et puis vous pouvez également participer aux frais de cette réunion, soit en versant une obole dans les paniers qui seront à la sortie de la salle, soit directement sur le site. Je vous en remercie.
Merci beaucoup.